C'est drôle, mais ça me fait peur d'être riche.
On s'y fait vite.
La curiosité est un vilain défaut.
Il me semble qu'il y a comme une erreur. J'ai plus d'argent qu'avant.
Ah, ce sont les plus-values de vos placements.
De mes placements?
Oui.
Vous voulez dire qu'avec tout ce que j'ai claqué, j'ai quand même gagné 5%?
Sur RTL.
Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais.
Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Pardon. Excuse-moi, c'est une mauvaise blague.
Extrait du film A, si j'étais riche. Bonsoir Guillaume Maujean.
Bonsoir Thomas, bonsoir
Sidonie.
Bienvenue, vous êtes journaliste, ancien rédacteur en chef aux Échos, aujourd'hui conseiller en communication. Vous avez enquêté sur les hommes, les femmes les plus riches de la planète. C'est l'annonce de ce cap là, des 100 milliards de dollars de fortune personnelle de Bernard Arnault, le patron de LVMH, qui nous a donné envie d'en savoir plus. Il est entré quoi, dans un club ultra fermé, c'est ça?
Oui, effectivement, les milliardaires, c'est 2000 personnes dans le monde, hein. Au-dessus de 50 milliards d'euros, ce qui est énorme, c'est une dizaines de personnes, beaucoup d'Américains, et puis un ou deux Européens, le fondateur de Zara, qui s'appelle Amancio Ortega, et puis Bernard Arnault, donc, qui a créé LVMH, et qui marche très très bien en ce moment, qui a publié des résultats records, et donc la fortune de Bernard Arnault, elle est liée à la très grande santé d'LVMH.
Et aux actions,
exactement, la valeur de ces actions.
Et nous, ce qui nous intéresse à RTL, c'est pas forcément l'argent, mais plutôt les sagas, les histoires humaines qu'il y a derrière. Guillaume Maujean, vous publiez Les Seigneurs de l'Argent, c'est aux éditions Thaïlandier, et on y découvre ces histoires d'ascension sociale, par exemple celle de Sidney Weinberg. On est à New York en 1907. Il grandit dans quel milieu social?
Alors un milieu extrêmement modeste, hein. C'est le fils d'émigrés polonais qui sont installés à Brooklyn à la fin du 19e siècle, et il est le troisième de 11 enfants et sa famille n'arrive pas à subvenir aux besoins de tout le monde, et donc il le renvoie de la maison, il le renvoie à la rue. Il va vivre de tout petits boulots, hein,
de débrouillardise.
Et ben, il va par exemple livrer des plumes pour les modistes, il va être coursier pour les entreprises, il va aussi être vendeur de journaux à la sortie du terminal du ferry Manhattan Brooklyn. Enfin voilà, c'est vraiment des petits boulots, de la débrouillardise. Et puis quand il a 15-16 ans, c'est la crise en 1907, une crise financière déjà, hein, 100 ans avant la crise de 2007, eh bien, il va se dire, je vais aller là où est a priori l'argent, à la Bourse de New York, près de la Bourse de New York, où sont les plus grands buildings. Il frappe à toutes les portes, et là, il y a un concierge qui le reçoit et dit, bah ok, je veux bien vous prendre, vous allez bosser pour 3 dollars par semaine, et vous allez me nettoyer les chapeaux des associés, vous allez cirer leurs chaussures, et vous allez aussi nettoyer le petit crachoir qui est à l'entrée, où les associés ont l'habitude de cracher.
Il rentre chez Goldman Sachs,
exactement. Ouais. Et il va y rester.
Est-ce que c'est une grande banque déjà?
Encore à l'époque, ouais. Tout à fait. Effectivement, elle a été créée une trentaine d'années plus tôt. Elle vit d'effets de commerce. Enfin, elle n'est pas encore extrêmement connue. Elle commence à se faire un petit nom à Wall Street, mais ce n'est pas encore une entreprise très, très, très connue comme on la connaît aujourd'hui.
Alors, c'est une histoire d'ascension sociale, on l'a dit. Sidney Weinberg, il rentre comme concierge, ouais. même adjoint du concierge,
exactement.
On pourrait presque,
ouais, ouais,
presque dire ça. Il va devenir ami avec Paul Sachs, qui est le fils du fondateur de la banque. En quoi ça va l'aider?
Exactement. Alors, il rencontre Paul Sachs et c'est une histoire d'amitié. C'est-à-dire que Paul Sachs se rend compte assez vite que le garçon vaut bien mieux que d'être simplement concierge. Il voit qu'il a des talents plutôt d'organisation, de manager. Et donc, il va lui confier l'organisation du courrier que reçoit la banque. D'accord. Là, il fait un boulot formidable. Il réorganise tout ça. Et Paul Sachs se dit, il a quand même vraiment un gros potentiel. Je vais lui payer des cours du soir à l'université de New York pour apprendre ce que c'est que le métier de banquier. Le métier de financier.
Il voit en fait en lui un futur associé peut-être.
Exactement.
Part.
En tout cas, ouais. Il pressent quelque chose et il pressent que ce garçon-là, qui a une énergie considérable, une envie de réussite et une envie de revanche sociale aussi par rapport à son milieu très très forte, est capable sans doute de faire beaucoup mieux que ce qu'il fait comme concierge ou comme gestionnaire du courrier. Et donc effectivement, après ça, il va lui payer une licence bancaire et un siège à la Bourse de New York. Donc il gravit vraiment les échelons un à un, ouais. Et il devient associé de Goldman Sachs à l'âge de 35 ans à peine. Une réussite vraiment formidable.
Et puis c'est la crise économique de 1929 qui va lui offrir un coup d'éclat. Il va pouvoir montrer de quoi il est vraiment capable.
Exactement. Alors là, Goldman Sachs est pris la main dans le sac, hein, si je puis me permettre. Crack boursier. La banque a déjà vendu des produits spéculatifs à des petits investisseurs qui ont absolument tout perdu en bourse.
Ça rappelle des souvenirs.
Quelques souvenirs. Voilà, exactement. Les pouvoirs publics, le Sénat demande des comptes à Goldman Sachs Et Goldman Sachs va devoir, pour améliorer sa réputation et changer son image, faire un peu le ménage. Et donc, le patron est viré. Et les fondateurs, les fils des fondateurs, ouais, proposent à Sidney Weinberg de prendre la tête de la banque. Et il va y rester plus de 40 ans. Et c'est vraiment à ce petit personnage qui mesure 1m60 hein, mm-hmm, qu'on doit la culture et l'incroyable succès de Goldman Sachs tel qu'il est aujourd'hui.
Donc, c'est un concierge qui est devenu le patron de Goldman Sachs. Il est resté 40 ans au sommet de cette grande banque. C'est devenu une très grande banque. Est-ce qu'il a gardé des souvenirs de ses origines modestes dans son bureau, par exemple ?
Oui, exactement. Alors, il en jouait beaucoup de ses origines modestes et il avait gardé dans son bureau, quand il était patron de Wall Street, le fameux crachoir qu'il nettoyait quand il avait 15 ans à peine, qu'il mettait en vitrine pour rappeler à tous ceux qui venaient dans son bureau, à la fois ses salariés et ses clients, ses origines modestes. Donc, il jouait beaucoup. Il arrivait à faire comprendre à ses interlocuteurs que lui, il était différent. Il venait d'un autre monde, que c'était une image du rêve américain, en quelque sorte, et que dans son sillage, on pouvait tout réussir.
Mais est-ce que justement, Sidney Weinberg donc, a commencé comme concierge, il devient peut-être millionnaire, on va dire, en tout cas le patron de la plus grande banque du monde. Est-ce qu'il va quand même profiter de cette villa, avoir une vie luxueuse ?
Eh bien, pas tellement en fait, parce qu'il continuait à habiter en banlieue américaine assez loin de Manhattan. Il venait en train tous les jours.
Pas de chauffeur, pas de chauffeur,
effectivement. Il l'a joué modeste, et c'est ça qu'appréciaient en fait ses clients. C'était quelqu'un qui venait pas de Harvard, qui venait pas de Yale, et qui pensait différemment des autres. C'est pour ça qu'il lui faisait confiance. Et toutes les grandes entreprises, hein, les Ford, Coca-Cola, etc., lui ont fait confiance, et voilà ce qui a conduit à son succès.
C'est l'or, il est l'or.
Sidonie Bonnec,
Monseigneur
Thomas Hugues,
il est 8 ans.
Bienvenue sur RTL, les curieux.
Il en manque une.
Vous êtes sort ?
Tout à fait sort.
Seigneurs, ou les seigneurs, comme vous voulez, de l'argent, c'est le programme de notre curiosité et le titre du livre de notre invité, le journaliste Guillaume Maugean. C'est l'histoire des hommes les plus riches de la planète, et vous me voyez venir, j'entends les hommes les plus riches, et je me dis, alors les femmes, elles sont où ?
Eh ben, il y en a effectivement, en tout cas les banquiers qui sont les plus riches, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a assez peu de banquiers jusqu'au milieu du 20e siècle. Dans mon ouvrage, voilà, sur 20, il y en a quand même deux ou trois qui ont réussi dans ce milieu-là et qui ont parfois accumulé des belles fortunes.
Ouais. Et leur nom peut-être, si vous les avez en tête.
Alors, il y a Martano, effectivement, qui était la banquière des années folles, qui a fait scandale dans la Troisième République par sa réussite. Et puis, je fais le portrait aussi d'une femme qui s'appelle Blythe Masters, qui est la femme qui a inventé des produits spéculatifs qui sont à l'origine de la crise des subprimes, qui a joué un rôle majeur. Elle était banquière pendant longtemps chez JP Morgan.
Et vous racontez leurs histoires dans Les Seigneurs de l'argent, qui est publié chez Talendier. Est-ce qu'il faut forcément, alors on a raconté l'histoire de Sidney Weinberg qui était concierge, qui est devenu patron de la banque Goldman Sachs. Est-ce qu'il faut forcément être sans scrupules pour devenir aussi riche ?
Vous dites ça parce que vous êtes jaloux, Thomas.
Sûrement. Ouais.
En tout cas, il faut avoir de l'ambition. Il faut avoir une volonté d'entreprendre, d'innover, de créer des choses. Et puis parfois, effectivement, une envie de revanche sociale. Hein, on l'a vu à Sidney Weinberg. Mmh. Martano, dont je vous parlais aussi, c'était la fille de simple mercier qui prenait elle plaisir à une fois qu'elle avait réussi à la bourse de Paris dans les années 20 et 30, à rouler en voiture de luxe, à s'afficher dans les palais et voilà, à étaler sa réussite en quelque sorte.
Bon, alors je ne sais pas s'il était sans scrupules, mais j'aurais bien aimé assister à la confession de Monseigneur. Alors comment on prononce Paul Marcinkus ?
Marcinkus, voilà, il était d'origine lituanienne, mais il était américain.
Donc archevêque américain, il n'avait pas vraiment les codes d'un archevêque, c'est ça ?
Non, pas tout à fait. Alors là, on est dans la deuxième moitié du 20e siècle. Mmh. C'était un archevêque très grand, il mesurait quasiment 2 mètres, qu'on voyait souvent avec des secrétaires assez pimpantes, qui aimaient fumer le cigare, un verre de whisky à la main, qui adorait le golf, le baseball, enfin voilà. Pas l'image de l'archevêque telle qu'on peut se l'imaginer.
Bon, là, on se dit, il est moderne, pourquoi pas ? Mais comment il arrive à rentrer au Vatican ?
Alors, il était prêtre, il avait quand même une famille qui était religieuse, et c'était un modeste prêtre au départ. Il a fait ses études à Rome, et à Rome, il est devenu ami avec Paul VI à l'époque, le pape Paul VI, qui en a fait un peu son homme de main, son homme de confiance, notamment parce qu'il l'avait sauvé lorsqu'un forcené avait voulu tuer Paul VI à coup de couteau. Et donc, il en a fait son homme de confiance au point qu'il lui a confié les finances du Vatican, et notamment l'Institut des des œuvres religieuses, qui est la banque un peu secrète du Vatican.
D'accord, donc ça c'est la banque du Vatican. Qu'est-ce qu'il en fait et pourquoi c'est finalement, on peut dire que c'était un personnage sans scrupules?
Alors la banque du Vatican, elle est censée gérer les dons des fidèles, les dépôts des congrégations religieuses. C'est une banque qui est censée faire plutôt des bonnes œuvres. Et en fait, au fur et à mesure, comme c'est une banque qui est très secrète, puisqu'elle est protégée par les accords qui protègent le Vatican, eh ben, y a beaucoup d'argent pas très propre qui va venir se mêler aux dons des fidèles. En fait, il va en faire une vraie petite banque qui va aller sur les paradis fiscaux, qui va investir sur des immeubles, sur des actions.
Donc la banque du Vatican va blanchir de l'argent,
exactement,
c'est ça?
Exactement, va blanchir de l'argent sale, d'autant que Mgr Marcinkus, en fait, va devenir très proche de la mafia italienne, d'affairistes italiens, de la loge P2, qui était une loge maçonnique un peu sulfureuse, qui mêlait des gens de la CIA, des hommes politiques italiens, etc. Et qui avait une obsession, en fait, c'était que les communistes n'arrivent pas au pouvoir en Italie.
Donc ils ont financé des opérations anticommunistes sur la planète, c'est ça ?
En Europe, ils ont aussi financé, par exemple, des guérillas anti-marxistes en Amérique du Sud. Ouais. Ils ont participé, à la fin des années 70, au financement du syndicat Solidarnosc de Lech Walesa pour mettre de côté, empêcher les communistes et polonais de revenir.
Et les papes dans tout ça, Guillaume Maujean, qu'est-ce qu'ils en disaient ? Parce qu'ils savaient quand même ce qui se passait dans leur banque, j'imagine, un peu.
Et alors, est-ce qu'ils fermaient les yeux ou pas ? En tout cas, c'était quasiment une diplomatie assumée par le Vatican, hein, par Paul VI et aussi par Jean-Paul II, qui avait cette obsession de repousser effectivement le pouvoir communiste et à une époque qui n'est pas du tout celle qu'on connaît aujourd'hui, mais fin des années 70, début 80. Et donc, ils vont effectivement fermer les yeux ou peut-être encourager effectivement cet archevêque américain à gérer les finances du Vatican comme si c'était une ambassade qui finançait un peu ses guerriers un peu partout.
D'un mot, ce banquier du Vatican, Paul Marcinkus, il est mort tranquille dans son lit ou il a été inquiété par la justice?
Oui. Jean-Paul II, en fait, l'a est vraiment protégé pendant très longtemps jusqu'à ce que le scandale soit tel qu'il soit obligé de le renvoyer aux États-Unis alors qu'il était effectivement au Vatican. Et il est mort dans son lit à l'âge de 84 ans sans jamais avoir vraiment exprimé de regrets ou avoir même eu affaire à la justice.
Où vas-tu garder cet extraordinaire trésor en conviction?
Oh, je ne le garderai pas, loulou.
La curiosité est un vilain défaut.
La plupart de ces objets vont être exposés au musée.
Oh, ça ne ressemble pas à Oncle Picsou.
Sur RTL,
je pourrais ainsi bénéficier d'une diminution d'impôt.
Ça lui ressemble.
Thomas Huguet, Sidonie Bonnec.
On est toujours avec le journaliste Guillaume Maujean, ancien rédacteur en chef des Échos. Vous avez enquêté sur les plus grosses fortunes de l'histoire, les seigneurs de l'argent, les oncles Picsou, les vrais. Et pour trouver l'homme le plus riche de tous les temps, alors il faut remonter à la fin du 15e siècle. On est entre 1450 et 1520. Et vous allez nous le présenter. Qui était Jacob Fugger? De quel milieu est-il issu?
Alors Jacob Fugger, c'est le fils d'une famille de tisserands qui va avoir une intuition, une idée géniale. C'est de se dire que pour faire grossir sa maison de commerce, eh bien, il faut savoir traiter l'argent. Et donc, il va transformer en fait la maison Fugger en une maison de banque, en se rapprochant de tous les princes, les souverains de l'époque, à une époque où la politique et l'argent commencent à faire bon ménage. Pourquoi ? Parce que, eh bien, il faut battre monnaie pour régner sur son territoire. Mmh. Il faut financer le train de vie de sa cour. Il faut financer ses guerres aussi, ses armées qu'on va lever. Et donc, en se rapprochant des grands souverains de l'époque, eh bien Jacob Fugger va accumuler une fortune absolument considérable.
Et puis il va se mettre au service d'un roi, de Charles Ier, roi d'Espagne. Comment est-ce qu'il finance sa campagne pour devenir l'empereur du Saint-Empire romain germanique?
Alors effectivement, en 1519, Jacob Fugger en fait va se mettre au service de Charles Quint. Charles Quint, à l'époque, le Saint-Empire romain germanique, ça ne se transmet pas de père en fils. C'est une élection. C'est 7 grands électeurs qui doivent désigner l'empereur de cette immense territoire qui va de l'Espagne aux provinces des Pays-Bas.
Hein. Ça veut dire qu'il y a une sorte de campagne électorale.
Il y a une campagne électorale.
Il y a qui face à Charles
Ier? Il y a François Ier qui est effectivement en concurrence avec lui. Il y a aussi Henri VIII d'Angleterre, mais assez vite, ça va tourner un duel François Ier contre Charles. Et cette campagne, en fait, c'est vraiment à qui va acheter le plus de voix. C'est vraiment comme ça que ça marche.
Ils achètent des
électeurs, ils leur financent toutes leurs envies, tout leur palais. On parle à l'époque, les gens de l'époque racontent qu'ils voyaient des brouettes d'or passer dans les maisons de ces grands électeurs pour vraiment acheter cette élection avec un enjeu politique qui était considérable à l'époque.
Ouais, et donc Jacob Fugger va financer la campagne de Charles Ier, qui devient Charles Quint. Juste pour savoir, ça représente combien de sujets, quel territoire, le Saint-Empire romain germanique?
Alors à l'époque, ça doit être une dizaine de millions de personnes, mais c'est un territoire immense, très morcelé surtout, hein, parce que c'est une collection d'États, de principautés. Il y a le royaume de Naples, il y a des provinces. Donc c'est un empire assez difficile à gérer, et ça se gère beaucoup par l'argent, parce qu'on va financer. Et donc en se rapprochant de Charles Quint, Jacob Fugger va accroître encore sa considérable fortune.
Mais évidemment, il ne fait pas ça pour le plaisir de Charles Quint, le plaisir de la politique. J'imagine, il va se rappeler au bon souvenir de Charles Quint. Qu'est-ce qu'il va lui demander et comment ?
Exactement, on a retrouvé la trace d'une lettre où 2 ans après l'élection de Charles Quint, Jacob Fugger écrit « Monseigneur, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai financé largement votre campagne et votre élection et je vous demande maintenant de me rendre mon dû avec intérêt. » C'est aussi cru que ça, exactement. La lettre est vraiment assez fantastique. C'est vraiment « J'ai payé votre campagne, maintenant je réclame mon bien. »
Et comment va-t-il devenir l'homme le plus riche de tous les temps ? D'ailleurs, on a évoqué tout à l'heure 500 milliards
d'euros. C'est l'équivalent. On sait à l'époque où il est mort, en fait, qu'il avait 2 millions de florins, qu'il a transmis 2 millions de florins à ses descendants. Et en actualisant cette fortune, en regardant combien ça fait par rapport à ce que représentait le PIB de l'époque, ce sont des estimations, on estime que ça représente 500 milliards d'euros. Donc c'est absolument considérable.
Et comment il a amassé une telle fortune ?
Eh bien, en finançant les princes, encore une fois, en finançant aussi le Vatican, qui était à l'époque très puissant et qui avait des besoins d'argent incessants, donc il va accumuler des intérêts. Il a aussi eu cette idée d'aller directement à la source, c'est-à-dire d'acheter ou de récupérer des mines de métaux, d'argent, de cuivre, pour à la fois battre les monnaies de ces différents souverains dont je vous ai parlé, et aussi à une époque où la guerre se fait avec des canons et des fusils, et bien construire tout l'armement de ses armées. Et donc, il gagnait sur tous les tableaux.
Est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à Jacob Fugger que le protestantisme est né ?
D'une certaine manière, oui, parce que quand je vous disais qu'il finançait le Vatican, il était aussi le financier de ce qu'on appelait les indulgences. Alors, les indulgences à l'époque, c'était l'absolution des péchés contre monnaie sonnante et trébuchante. Oui. Et c'est lui qui a géré tout le trafic des indulgences en Allemagne. Et c'est à cause des indulgences que le moine Luther, en 1517, a publié ses 95 thèses en disant « c'est absolument plus possible, l'argent ne peut pas régner comme ça dans l'Église, il faut changer tout ». C'est la naissance vraiment de la réforme protestante. Et donc c'est un peu, c'est d'abord contre la curie et contre le pape, mais c'est aussi contre Jacob Fugger que cette réforme majeure qui va toucher l'Église chrétienne se met en place.
Passionnante histoire à découvrir, Guillaume Maugean, dans votre livre « Les seigneurs de l'argent, des Médicis au Bitcoin » qui est donc publié aux éditions Talendier. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.